Et c'est parti! Tov, Erev Tov, les Koulam. Et ce soir, jamais deux sans trois. Voilà. Donc là, à cause de vous, maintenant, on va presque avoir une chazaka de changement de sujet de cours. Voilà, comme ça s'est fait. Forcément, comme c'était l'Aïloula de Reb Shlomo Carlebach, Eli, il a dit, il n'y a pas le choix. Après, je l'ai chauffé avec Reb Shlomo Goren, il n'y a pas eu le choix. Et après, vous l'avez chauffé en disant, ce serait bien qu'on continue les personnages. Voilà. Hein? Alors, Zéo. On a essayé de chercher un Shlomo. Bon, la vérité, c'est qu'au début, j'ai cherché des Iloulottes. Je me suis dit, on doit avoir une Iloula cette semaine, quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, pas maintenant, mais hier soir et aujourd'hui, c'était la Iloula de Rabbeinu Yonah Guérondi. Rabbeinu Yonah de Gérone, qui a vécu à l'époque du Rambam, plus ou moins, donc il y a à peu près 800 ans. Et je me suis dit, est-ce qu'on va faire le cours sur lui? Finalement, en haute sphère des Chachmé, Moetzet Chachmé Ador, a été décidé que finalement, ça serait peut-être plus judicieux dans un premier temps de se concentrer sur des personnages plus actuels. Plus actuel, et donc, eh bien, on a décidé de parler d'un grand bonhomme, d'un grand, grand, grand monsieur, à savoir le Rav David HaKohen, ou alors plus connu sous son surnom, Anazir HaYerushalmi, Rav Anazir. Donc, c'est parti ce soir pour notre plongeon en plein dans cette identité absolument atypique, incroyable, qui était le Rav Anazir. Alors, évidemment, qu'est-ce que je peux te dire? Le Rav Anazir, c'est l'élève numéro un du Rav Kook, bien sûr, mais ça sera beaucoup plus tard. Eh oui, on ne peut pas commencer à parler du Rav Anazir sans évoquer un événement qui, pour lui, il y a deux événements dans sa jeunesse qui vont guider toute sa Torah dans sa vie. Alors, quels sont ces deux événements? Alors, d'abord, il vient évidemment, comme j'allais dire comme tout le monde, mais non, comme les deux qu'on a cités précédemment, tant Reb Shlomo qui venait d'Allemagne que le Rav Goren qui venait de Pologne. Lui, il vient aussi d'Europe de l'Est, là-bas. Et il y a deux événements qui vont être fondateurs, qui vont, comme j'ai dit, mettre en place les deux piliers de sa vie. Le premier pilier, il raconte dans ses écrits, dans ses lettres, il n'y a pas écrit un livre de mémoire, mais il a énormément de lettres qui font référence à toute sa vie. C'est ce qu'il écrit lui-même à son fils, le Rav Shaar Yashuv HaKohen. Et dans ces lettres-là, il fait état d'une histoire qui s'est passée quand il était au Haïder. Bah, au Haïder, quand il était en petite classe, là-bas, c'est pas très clair, est-ce qu'il a 6 ans ou est-ce qu'il a 7 ans? Oh, le kolkach meshané. À ce moment-là, il est au cheder et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a d'autres enfants avec lui en classe et les enfants, ils aimeraient bien finir le cours un peu plus tôt pour aller jouer un peu plus tôt dans la récréation. Et donc, vu que le rav qui leur enseigne est un rav assez âgé, eh bien, ils se disent, les enfants, il va pas faire attention le rav si jamais on tripote un petit peu l'horloge. Car il y avait une horloge qui était fixée au mur, et quand l'horloge elle indiquait la fin de l'heure de cours, c'était la fin. Et donc à chaque fois, eh bien, les élèves avaient pris l'habitude d'enlever 1 minute au cours, c'est-à-dire en fait de bouger l'aiguille 1 minute en avance pour que l'aiguille arrive à midi, je ne sais pas si c'était midi, mais avant midi moins une. Alors, comme c'est midi moins une, forcément, le rav, il s'en rend pas compte. Midi moins deux, machin. Et le rav Anazir raconte que lorsque ça faisait déjà 12 jours que ça s'était passé, on était déjà à midi moins 12. C'est-à-dire que c'était le cours, il se terminait 12 heures avant midi. Et là, ce jour-là, le rav a compris qu'il se passait un truc. Et donc, il a dit, il a été vérifié, la montre a dit, c'est bizarre, hein, et il a vérifié effectivement, eh ben, il a bien vu que c'était trafiqué. Et il a posé une simple question. Qui est responsable de cela? Et les élèves, un par un, il les a interrogés un par un. Et chacun ont dit, pas moi, je ne suis pas responsable, je ne sais pas. Et lorsqu'il est arrivé au petit David Cohen, avant même qu'il lui demande est-ce qu'il était responsable, il a fondu en larmes en disant « Je n'ai pas touché l'horloge, mais je suis responsable de ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas dit, je suis donc responsable. » Le Rav HaNazir racontera que le premier pilier de sa Torah, il l'a appris ce jour-là. Que pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, il fallait être garant d'une Torah qui est Emet. Le Emet va être quelque chose qui va poursuivre toute sa vie et il va rattraper cette dimension-là. Il aura une Torah Emet. Alors vous allez me dire, tous les rabbins, ils ont une Torah Emet. Non. Une Torah Emet, c'est-à-dire, il est complet et entier avec la façon dont il voit la nécessité du moment. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça va se concrétiser? Une autre chose qui va devenir donc son deuxième pilier, il raconte qu'un jour, il est en calèche, en plein mois de décembre, et il neige, et tout est blanc dans tous les sens. Et il raconte que dans la calèche, il entend au loin le train, la voie de chemin de fer, le train qui est en train de passer. Et il explique que c'est la première fois qu'il a véritablement entendu quelque chose. C'est-à-dire, il entendait ce cri, le train, qui déchirait les profondeurs et qui parvenait jusqu'à ses oreilles. Le Rav HaNazir expliquera que c'est le deuxième pilier qui va être toute sa Torah, la notion de Shmiat Olam. Et j'aimerais prendre 2 secondes, on y reviendra évidemment, mais j'aimerais prendre 2 secondes pour que vous compreniez la Torah du Rav HaNazir. On connaît tous la dimension qui s'appelle Ashkafat Olam. Ashkafat Olam, c'est littéralement la vision que j'ai du monde. Le Nazir va toute sa vie chercher non pas à voir, mais à entendre. Vous allez me dire, oui, mais entendre, c'est moins fort que lire haute. Puisque dans le Talmud de Babylone, lorsqu'on veut enseigner à quelqu'un quelque chose, on lui dit « Tashma », ce qui veut dire « viens et entends ». Alors que dans le Talmud de Jérusalem, eh bien on dira « Tachazei », « viens voir ». Sauf qu'il y a une troisième dimension qui est de nouveau, cette fois une entente, qui est la dimension de Shema Yisrael. C'est-à-dire que tu entends d'abord un bruit. Ensuite, tu vois de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, tu peux entendre véritablement à Devarim. C'est toute la sugya qui entoure le verset de Tehilim qui nous dit « Kol Devarim Atem Shom'im ». Ou alors, comme on dit dans la Tfila, qu'on entend « Bekol Divrei Elohim Chaim ». Et lorsqu'on dit « Kol Devarim », on a malheureusement tendance à penser qu'il s'agit de c'est le son des paroles. Ce n'est pas le cas. Quand on dit dans la tfila que Akadosh Baruch Hu est Bekol Divrei Elohim Chaim, alors dans les sidurim, ils mettent une virgule après le mot kol. Pour dire qu'on entend Bekol, genre à voix haute, Divrei Elohim Chaim. Ce n'est pas la signification du verset. Kol, c'est le son. C'est, si tu veux, l'intonation. Il y a des paroles, mais il y a également la façon de les entendre. Toute sa vie, le Rav HaNazir, depuis ce jour où il était encore un petit enfant et qu'il a entendu ce bruit déchirer le silence, il a recherché à entendre. Peut-être plus à écouter. Et donc, je animakdim et tameuhar, mais vous comprendrez donc que son livre principal, sa masterpiece, il va décider de l'appeler Kol Anevoa. C'est le son de la névoa qu'il cherchait. Mais on a été un petit peu trop vite. Revenons à notre petit David Cohen. Bon, David Cohen, évidemment, je ne vais pas te la refaire à l'envers. Il est fils de Rav, petit-fils de Rav. Il vient d'une famille de Talmidei Chachamim Atsumim. Sur 17 générations, ils sont non seulement Rabbanim, avant lui, mais en plus Kohanim. C'est-à-dire que sur 17 générations, de père en fils, c'est des Kohanim Rabbanim. C'est quelque chose d'assez grand. ça continuera encore avec sa génération et la génération de son fils. Et après, eh bien, ils seront toujours Kohanim, mais ils ne seront plus forcément les Rabbanim de ville, de Shrounot ou quoi que ce soit. Mais on voit que le Rav HaNezir, il vient déjà d'une famille incroyable. Mais qui va être son maître, son premier maître? Chez qui va-t-il grandir? Eh bien, son père est le Rav d'une ville. Mais le Rav de quelle ville? Eh bien, le Rav HaNezir va grandir, même si ce n'est pas là qu'il est né, mais très très rapidement, la famille va bouger et le Rav va arriver à Radin. Et quand je dis Radin, eh bien, tout de suite, ça doit nous faire, hoppa, Radin! Mais alors, est-ce que le maître du Rav HaNezir serait? Eh bien oui. Eh bien oui, vous avez compris. Le maître du Rav HaNezir n'est autre que tout simplement le Hafetz Chaim. Le Hafetz Chaim n'était pas le rabbin de Radin. Il était le Hafetz Chaim à Radin. Le rabbin, c'était le père du Rav HaNezir, le Rav HaKohen, mais le Hafetz Chaim quand même. Vous comprenez l'idée? Le petit David Cohen va étudier, va faire ses dents, si on veut, chez le Hafetz Chaim. Il va partir, la famille va partir un petit peu de Radin, il reviendra quand il a 16 ans, et c'est à partir de là qu'on va commencer à se concentrer sur lui. Lorsqu'il a 16 ans, il revient étudier chez le Hafetz Chaim, et le Hafetz Chaim lui dit une chose. Le petit David Cohen, qui est déjà plus tellement petit, lui a dit qu'il voulait partir étudier à l'université. Évidemment, le Hafetz Chaim n'est pas très content, mais il a bien compris qu'il n'allait pas pouvoir l'en empêcher, et il lui dit une chose. Il lui dit, tu dois prendre sur toi une seule responsabilité. Bon, quelle responsabilité? Eh bien, vois-tu, moi, j'ai déjà un certain âge. Toi, tu es la relève de la Kehuna Gedola. Tu es la relève de la grande prêtrise d'Israël. Le Hafetz Chaim aussi était Cohen. Il dit, je n'ai aucun doute, alors zéro doute, que la Géoula va arriver. Et je n'ai zéro doute que peut-être, moi, je la verrai, mais que toi, c'est sûr que tu la verras. Autant moi, pas sûr, parce que bon, bah, je suis plus tout jeune, mais toi, c'est sûr. Vous vous rappelez que Rav HaNezir, enfin, le Hafetz Chaim va entendre la déclaration Balfour à la radio et il va dire à ce moment-là Dos is dos, ce qui veut dire Zeouze, ça y est, Atralta de Geoula, tel que c'est rapporté dans les paroles, dans le livre de son fils, Toldot Hafetz Chaim. Mais Kitsour, il dit au Rav HaNezir, tu as une responsabilité. La Geoula, elle va arriver, je te dis, toi, tu vas la voir. Après la Geoula, la deuxième étape, c'est la construction du Beth Amikdash. Je ne suis pas du tout certain que moi, je vais pouvoir ben, les Shamesh Bakeuna au Beth Amikdash. Mais toi, peut-être. Là, il lui dit, plus t'es sûr. Il ne dit pas, je suis sûr que. Mais peut-être, toi, peut-être. Ah oui, exactement, exactement. Tu dis, quand la déclaration Balfour est arrivée, c'est terminé la peur des trois serments. Alors ça, ce n'est pas le Hafetz Chaim qui le dit, mais c'est un autre contemporain qui s'appelle le Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, le Meshech Chochma, effectivement, c'est ça qu'il va écrire, que maintenant que la peur des trois serments est tombée, alors il faut revenir en Israël. Mais Kitzour, quelle est cette responsabilité que le Hafetz Chaim donne au Rav HaNezir? Il lui dit, écoute-moi bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a un limoud que tu dois faire tien. C'est tout ce qui concerne le Beth Amikdash, Korbanot Avodat HaKohanim. Pourquoi? Eh bien parce que toi, peut-être que tu vas servir au Beth Amikdash. Mais même si toi, tu ne sers pas au Beth Amikdash, la génération d'après toi, elle servira au Beth Amikdash. Or, ben quand on va construire le Beth Amikdash, lui dit le Hafetz Chaim, qui va enseigner à la nouvelle génération de Kohanim qu'est-ce qu'il faut faire? Les rabbins? Eh, pas du tout. Les rabbins, ils n'y connaissent rien. Parce que les rabbins, ils ont étudié le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, eh bien, il n'y a pas marqué tout ça. Donc, vu que nous, les rabbins, on était occupés à enseigner la halakha du quotidien, on n'a pas pu s'occuper de ce genre d'études. Toi, tu devras être ce responsable-là. Le Rav HaNezir va donc grandir avec cette compréhension profonde qu'il tient sur ses épaules, la destinée de l'enseignement du Shlav Abba, de la prochaine étape. Et les années continuent, et le Rav un jour, le Rav Nazir, va décider que ça y est, il faut partir. Mais d'où lui vient véritablement cette volonté de dire « il faut partir » Il a, à un moment donné, il a voyagé beaucoup et il s'est retrouvé à Pétersbourg, en Russie. Et là-bas, il y avait un couvre-feu pour les Juifs. À un moment donné, il a été chopé dehors après le couvre-feu. Eh oui, c'est très actuel. Il a été chopé dehors après le couvre-feu et un policier est arrivé, évidemment. Il a reconnu que c'était un juif. Et avant de le faire passer deux nuits en prison, il lui dit une phrase. Une phrase qui va retentir dans les oreilles du David Cohen qui a déjà la vingtaine. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Bon, il l'a dit en russe, hein, je ne vais pas te le refaire en russe, mais il lui a dit « Lech l'Yerushalayim kvar. Retourne à Jérusalem !» Et le Rav Cohen a compris que ça y est. C'était l'appel qu'Akadosh Baruch Hu lui lançait pour effectivement revenir à Jérusalem. Ça va lui prendre un petit peu de temps. Un petit peu de temps, parce que finalement, il y a la guerre qui se met en place. C'est un petit peu compliqué de venir maintenant. Et donc, il va en profiter pour terminer ses études. Ses études de quoi ? De philosophie. Pourquoi il étudie la philosophie ? Pourquoi le Rav Nazir étudie la philosophie alors qu'il est complètement animé par la névoie d'Israël ? Le Rav Nazir a très bien compris l'enseignement du Chafetz Chaim. Et il dit que bah, s'il va falloir enseigner le Shlav Abba, eh bien le Shlav Abba, c'est d'avoir un message que Gam Chachmei Agoyim puisse entendre. Et donc, il faut que je connaisse le langage des Chachmei Agoyim. Et donc, il va à l'université apprendre la philosophie. Le problème, c'est que là-bas, il voit qu'il n'est pas le seul juif, il y en a plein d'autres. Seulement, tous les juifs qu'il rencontre à l'université, comment te dire ? Ben, il n'y a plus beaucoup de kippotes dans l'histoire. Il n'y a plus beaucoup de juifs dans ces juifs. Ils ont pratiquement tous choisi le chemin de l'assimilation. C'est à ce moment-là que le Rav Nazir va prendre deux décisions. D'abord, des décisions qui sont portées par une Gaavat Yechida, par justement le fait de ne pas vouloir tomber dans l'assimilation, qui plus tard deviendront des décisions idéales. La première, c'est que pour ne pas tomber dans les problématiques de cacheroute, il arrête de manger de la viande. Ce n'est pas encore par idéalisme de végétarien, mais c'est pour répondre aux problèmes techniques de cacheroute. Deuxièmement, il voit que les juifs se rasent pour passer comme des bons jeunes européens. Il dit, bah, à ce moment-là, moi, je ne me raserai plus. Je ferai le contraste. Je veux bel et bien montrer que je suis un membre à part entière du peuple d'Israël. Quand il dit, je ne me raserai plus, c'est pas seulement la barbe, mais c'est également les cheveux. Et à partir de ce moment-là, il commence à devenir un Rav Nazir. Un Rav Nazir, il commence à prendre sur lui des minagim de Nézirut. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il veut tout simplement se rattacher à une dimension qui n'est pas seulement une dimension d'étude, mais une dimension de Chavaya. Il veut ressentir l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Il sent que l'Europe l'empêche de grandir. Il cherche donc à s'extraire du monde de l'Europe en prenant ce chemin de Nézirut pour se rattacher à quelque chose de plus grand. Finalement, il arrive en Israël. Mais pourquoi il est arrivé en Israël ? On a dit qu'il y avait le russe. Mais il y a une autre raison. Quand il était encore en Europe, il va faire la rencontre de quelqu'un. Et vous voyez où je veux en venir. Il va rencontrer celui qui deviendra finalement son grand maître. À savoir, il va rencontrer le Rav Kook. À ce moment-là, le Rav Kook est en Suisse. Lui est en Allemagne. Il se dit, c'est pas très loin. Je vais y aller. Le problème, c'est que la rencontre numéro 1 entre le Rav Nazir et le Rav Kook, l'homme à chou. comme on dit, c'était pas la folie. Il a fait tout un chemin énorme et il était extrêmement ému à l'idée de le rencontrer. Il écrit dans la Hagdama de Orot HaKodesh, il dit comment ça s'est passé la rencontre. Il dit d'abord, j'ai été me faire une bonne trempette au Mikvé dans les eaux du Rhin. Bon, ça devait être bien froid. Et puis après, j'ai été chez le Rav. Et il dit, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le Rav Kook assis avec son fils, le Rav Tzvi Yehuda, en train de parler de halakha, philosophia, kol. Je me suis installé avec eux et j'ai commencé à poser des questions et à parler philosophie. Et je me suis rendu compte ben que c'était ouais. L'osipek et omek nishmati. Et il écrit dans son texte que bon, la nuit est tombée, il n'a pas pu retourner chez lui, mais dans sa chambre, il était extrêmement déçu. Et il dit Al Mishkavi lo shachav libi. Il dit c'est pas possible. J'ai dû rater quelque chose. C'est pas normal. C'est pas ça le Rav Kook qu'on m'a décrit. J'ai raté quelque chose. Vous vous rappelez quel était le pilier? On a dit le pilier numéro 2 de sa vie, Shmiat Olam. Le lendemain matin, à l'heure du lever du soleil, il écrit qu'il entendra le Rav faire les Birkot HaShachar. Benigun Elion. Il dit, j'ai été réveillé par ce Nigun Mishmei Shmei Kedem. Zepo Ganeden. Yeyeshpo Ganeden. Il dit, Yoter me asher giliti matsati li rav. Zeu. C'est ça que je cherchais. Le Rav Kook sera mon Rav. Et à partir de ce moment-là, il ne le quittera plus. Il ne le quittera plus. Le Rav Anazir deviendra l'élève numéro un du Rav Kook. C'est lui qui va mettre en place une grande partie de sa Torah, c'est lui qui va mettre en place Orot HaKodesh. Et il sera maintenant connu comme étant l'élève du Rav Kook. Mais le Rav Anazir est très différent du Rav Kook. Il écrira lui-même, encore une fois, dans les lettres qu'il envoie à son fils, il dit, je sais très très bien qu'il reste un grand travail que je n'ai pas pu faire, c'est de pouvoir faire coexister, de pouvoir rassembler, de pouvoir trouver le trait d'union entre Kol HaNevoa et Orot HaKodesh. Il dit, je n'ai pas réussi à faire ce travail-là. Je dis, je sais très bien, moi, ma Torah, c'est Shmia. La Torah du Rav, c'est Orot, c'est Or, c'est la vue. Il y a quelque chose. À Emet, quand on étudie l'un et l'autre, eh bien, on se rendra compte que Orot, c'est une vision globale. C'est ce que fait la vue. La vue, lorsque je pose mon regard sur quelque chose, je vois tout de suite tous les détails. Alors que quand j'entends, si je veux pouvoir entendre quelque chose, quand il y a plein de bruit, il faut que je me concentre sur une voix, sur un truc qui va me pénétrer. À Or, chez la Rav Kook, face à la Shmia du Rav Anazir. Mais les années passent, le Rav décède, mais avant cela, il y a eu un moment Mechonen. Finalement, une fois que le Rav Anazir est arrivé à Jérusalem, qu'il est l'élève du Rav Kook à Merkaz Harav, eh bien, enfin, depuis maintenant plus de 25 ans, il l'attend. Sa bien-aimée, Sourle, c'est sa cousine, Sarah. Elle vient de recevoir enfin la permission, le certificat pour arriver en Eretz Israël. Elle va arriver. Ils vont se rencontrer. Ils se rencontrent au Beit HaMidrash à Merkaz Harav. Bon, ce n'était pas le Beit HaMidrash qu'on connaît aujourd'hui. Et pour l'occasion, le Rav Kook a fériérisé le Beit HaMidrash. C'est-à-dire qu'on est à la fin du Seder et on va laisser les deux se rencontrer au Beit HaMidrash. Seule la femme du Rav Kook, sera là pour servir les cafés. Imaginez-vous la Hitrakshut. Ils se sont promis depuis tellement longtemps. Mais lui était en Israël, elle était encore là-bas loin. Enfin, ils se retrouvent. Mais vous imaginez? Vous imaginez? Lui, il la retrouve telle qu'elle. Bon, tu me diras tel quel. Elle a près de 30 ans maintenant, alors qu'il l'a quittée quand elle en avait 15. Mais elle n'a pas tellement changé. Lui, par contre, elle l'a quitté sans poil. Et le mec, ça fait 20 ans qu'il s'est pas rasé. Eh oui, donc t'imagines bien que retrouver quelqu'un qui a une chevelure qui lui tombe sur les épaules et une barbe énorme, c'était pas ce qu'elle avait quitté. Lorsqu'elle le voit, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Eh bien, elle fait exactement ce que Rivka. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle s'appelle Rivka, ça aurait fait une belle truc, mais non. Elle s'appelle Sarah, mais elle a fait ce que Rivka a fait. Elle a demandé à la rabbanit Cook, elle lui a demandé, Misa Tzadik. Elle dit, c'est la Tzadik, c'est l'art. C'est le tien. Vatikachat Seif, Vatitkas. Ils n'ont pas décroché un mot de toute la rencontre. Ils se sont regardés et Sarah, à la fin de la rencontre, a dit, c'est exactement les paroles que j'avais espéré entendre de lui. Elle avait entendu dans son silence toute sa Torah. Et donc, ils vont se marier. Mais il y a juste un petit problème. Le Rav Kook, évidemment, est celui qui va faire le mariage. Mais il y a juste un problème. C'est que le Rav HaNazir comprend qu'arriver sous la choupa, c'est tout simplement le taken, chet Adam Arishon, c'est arrivé, beshmei shmei kedem, c'est arrivé, sameach et samarim, aouvim, mais quoi? Began Eden mikedem. Il comprend la puissance de la situation et il est d'un sérieux implacable. Le Rav Kook doit l'emmener maintenant sous la choupa. Non, le livre Kol HaNevouah parle non seulement de comment il faut écouter le monde pour pouvoir chercher la Névoie et pour finalement y arriver. Le Rav HaNazir, toute sa vie, cherchera la Névoie, on va y revenir. Mais Kitzour, il doit arriver maintenant sous sa choupa. Nous, Ouria, merci beaucoup. Il va donc, il est là, il va arriver sous sa choupa, mais le Rav ne l'emmène pas sous la choupa. Les parents du Nazir ne sont pas là, c'est le Rav qui va non seulement faire le mariage, mais qui va l'emmener également sous la choupa. Il n'avance pas. Il est trop sérieux. Le Rav Kook va sortir son index et va le chatouiller au niveau de la hanche. Je ne sais pas si tu imagines l'ambiance. On parle du Rav Kook et du Rav HaNazir. Et il y en a un qui chatouille l'autre. Au moment où il voit le Nazir décrocher un micro-sourire, il dit « Ah! Bidiouk! Maintenant, on peut y aller! » Et il lui dira dans le chemin qui séparera le début de l'allée à la Choupa, il dira « Tedalecha » Chez Anevoa, Chayevet Simcha. La retsinout est très importante, mais la simcha l'est tout autant. C'est un enseignement que le Rav HaNazir n'oubliera jamais. Quand le Rav va partir, le Rav Kook va nous quitter, le Rav HaNazir devient celui. Alors, il y a le Rav Tzvi Yehuda qui prend la relève de son père, mais tout le monde voit le Rav HaNazir comme étant. Si le Rav Tzvi Yehuda est le côté actif qu'avait son père, le Nazir est le côté de la grandeur spirituelle qu'avait son maître. Le Rav Nazir arrive à Milchemet, à Milchemet Ha'atzmaout. Durant Milchemet Ha'atzmaout, il va se passer quelque chose. Jérusalem est coupée en deux. Jérusalem est coupée en deux. Le Rav HaNazir ne peut plus habiter dans la vieille ville. Il est dans la rue Amos. Il habite dans la rue Amos, juste à côté du Rav Tzvi Yehuda qui habitait dans la rue Ovadia, et juste à côté du Rav Shapira qui lui aussi habitait dans la rue Ovadia. Juste à côté. Et à partir du moment où Jérusalem est coupée en deux, le Rav HaNazir, parce qu'il n'avait pas pris sur lui assez de choses, hein, la Nesiroute, ce n'était pas assez. Il a dit, puisque Jérusalem n'est pas à la maison, puisque Jérusalem ne peut pas être réunie pour le moment, puisque Jérusalem est enfermée chez les Jordaniens, tant que Jérusalem ne sera pas libérée, je ne sortirai pas de chez moi. Vous vous rappelez du premier pilier du Rav Nazir? Emet. Le Nazir, pendant 19 ans, ne sortira pas de sa maison. Il a dit, tant que Jérusalem n'est pas libérée, je ne sors pas de chez moi. Sa maison est donc devenue Beth Midrash, est donc devenue synagogue, est donc devenue lieu où les gens venaient. Mais lui n'est pas sorti de chez lui. 19 ans. Ça, c'est du confinement, les gars. Maintenant, 19 ans, sauf une fois. Il y a une fois où il va sortir de chez lui. Ah bon? C'est quand, cette histoire? Ouh là là! C'est un moment très important. Une seule fois, pendant les 19 ans, où il va sortir de chez lui. C'est le jour où il y aura la bat mitzvah de sa petite fille. Eh oui! Eh oui! Elle a dit ça, c'est trop important pour que je reste chez moi. Les petits-enfants du Rav Nazir avaient l'habitude. C'est eux qui venaient le voir. Mais là, il a dit, il faut que je vienne pour la Messibat Bat Mitzvah que ma petite fille fait dans sa maison. Quand il arrive, tout le monde comprend l'importance de l'événement. Le Rav Nazir, comme cadeau de Bat Mitzvah à sa petite fille, lui sort un grand parchemin dessiné. Dans ce parchemin dessiné, est écrit son arbre généalogique. Il lui dit, voilà ce que je voulais t'apprendre, ma chère petite fille, le jour de ta bat mitzvah. Voilà dans quelle famille d'Israël tu es venu au monde. Et voilà quel est l'héritage de tes ancêtres. Car ce n'est que cela, le judaïsme. Transmettre un héritage qui pourra devenir Bevoazman, qui pourra devenir le moment voulu, la résurrection de l'appel d'Akadosh Baruch. Dieu a appelé nos ancêtres. Si nous arrivons à être fidèles à leur enseignement, Dieu nous rappellera. Rav David HaKohen, à Rav HaNazir. Le Rav HaNazir va voir la guerre des six jours. Mais avant, juste avant, on voit que les tensions avec l'Égypte sont énormes. Et il ne comprend pas. Quand on voit les tensions avec l'Égypte commencer, il dit, mais en quoi ça va être bien pour le monde, pour le Géoulat Israël, une autre guerre avec l'Égypte? Lorsque finalement la guerre des six jours éclate et qu'on rentre en guerre contre l'Égypte, il ne comprend tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver de bien de retomber en guerre contre les Égyptiens? Et lorsqu'à la fin de la première journée de la guerre des six jours, il entend qu'en plus des Égyptiens et des Syriens au nord, les Jordaniens rentrent dans la guerre, il a un énorme sourire. Je sais pas si faut vous imaginer le truc, hein. Moi, j'étais pas là, hein. Mais t'es en 1967, ok? Juin, la guerre des six jours commence. On ne sait pas qu'on va les exploser en six jours. Pour l'instant, quand ça commence, on a peur que ce soit la Shoah. Et quand on se dit, il y a les Égyptiens au sud, les Syriens au nord, c'est déjà la folie, et que les Jordaniens rentrent dans les combats, on se dit, mais c'est terminé. Tout le monde est dans un stress absolu, absolu. Et à ce moment-là, le Rav HaNazir, quand il entend que les Jordaniens rentrent dans la guerre, la banane! Et il dit, maintenant tout est clair. C'est parce qu'on était en guerre contre les Égyptiens que les Égyptiens ont fait pression sur les Jordaniens qui rentrent en guerre aussi qu'on va pouvoir libérer Jérusalem. Si on n'était pas rentré en guerre contre les Jordaniens, on ne serait pas rentré à Jérusalem. Il dit maintenant, tout est clair. Et donc, lorsque, ben, finalement, ça y est, Jérusalem est libérée, le Rav Nazir va arriver au Harabait, au Kotel. Qui va venir le faire chercher? Ben, son gendre. Ah oui, ben oui, parce qu'on n'a pas dit qui c'était son gendre. On a parlé de son fils, le Rav Sharia Shuva Cohen, qui était d'ailleurs jusqu'en 2011 le grand rabbin de Haïfa. Mais c'est qui son gendre? Eh ben son gendre, on en a parlé la semaine dernière, son gendre, c'est le Rav Goren. Eh oui, il a marié sa fille avec le Rav Goren. Bon, t'as compris que c'était une famille absolument incroyable. Le Rav Goren vient faire chercher le Rav Nazir et le Rav Tzvi Yehuda une fois que le monde du temple a été libéré. Le Rav Nazir va arriver au Kotel. Et encore une fois, nous on connaît les photos, mais imaginez-vous le bonhomme, cette crinière incroyable. Lorsqu'il est avec les mains devant le Kotel, il y a un homme qui est là. Un homme qui a tellement vu de choses. Mais qui, lorsqu'il voit le Nazir comme ça, sur le mur du Kotel, il va venir chuchoter dans l'oreille du Rav Goren. Et il lui dit, Shlomo. Oui, parce qu'il ne l'appelait pas le Rav Goren, il l'appelait Shlomo. Il dit, Shlomo. Nahon, n'est-ce pas? C'est Eliyahu HaNavi. C'est lui, Eliyahu HaNavi. Le Rav Goren se retourne vers son collègue, ami, qui n'est autre que Mota Gour, le chef de tous les parachutistes, ceux qui viennent de libérer Jérusalem. Et il lui dit, presque. Il dit, c'est Eliyahu HaNavi? Il lui dit, presque. Rav David HaKohen. Vous savez, le Rav HaNazir avait, on l'a dit, cette dimension de Emet. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il donnait cours, il donnait cours une fois par semaine. Lorsqu'il donnait cours, il préparait le cours pendant toute la semaine. C'est-à-dire, il donnait qu'un cours par semaine, mais son cours, il le préparait pendant 6 jours. Et dans le cours, quand arrivait dans la classe du Nazir, il y avait une pile de livres énorme à sa gauche, une pile de livres énorme à sa droite. Et il y avait la tête du Rav au milieu. La pile de livres numéro 1, c'était toutes les références qu'il allait avoir besoin pendant son cours. Oui, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas, on fait une photocopie, copier-coller, machin. Non, non. Chaque référence, on sort le livre en question. Donc les livres étaient prêts. Sur la pile de droite, il y avait tous les livres où il y avait les références, des réponses aux questions qu'allaient poser les élèves. Parce qu'il avait déjà prévu quelles questions ils allaient poser, donc il avait prévu aussi. Un jour, il y a un élève qui a posé une question. Il a posé une question. Il a dit, la réponse se trouve dans le livre numéro 3, dans le troisième livre en partant du haut. Alors, Kvodo, c'est à la page 62. Il a dit, Kvodoi Yikro. Ce qui veut dire, Kvodo Yikra. Vas-y, lis. Il prend le livre, page 62. Et là, l'élève est un petit peu en mevoucha parce qu'il venait de prendre la métaphysique d'Aristote en VO. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Et donc, il lui dit, Arav, je peux pas, je sais pas lire. Il dit, comment ça, je sais pas lire? Bah, c'est en grec et je sais pas lire le grec. Et là, le Rav Nazir lui dit, Kvodoi lo yodeo yevonis. Tzorich la das yevonis. Il dit, quoi, tu sais pas le grec? Mais il faut savoir le grec. Justement, il faut savoir le grec. Rav Nazir, il était polyglotte. Ok, bon, on va commencer comme ça. Mais c'est de quoi faut savoir le grec? Pas parce que c'est le grec. Non, parce que si tu veux comprendre et pouvoir transmettre quelque chose, il faut connaître la culture de l'autre, il faut connaître l'enseignement de l'autre et il faut se connaître sa langue. Mais plus que tout, il faut connaître la sienne. Si je vous dis que le Rav Nazir a boycotté un cours du Rav Kook, vous me croyez? À l'époque où le Rav était encore là, le Rav Nazir était dans tous les shiurim du Rav Kook. Et il y en avait plein des shiurim du Rav Kook. Mais il y a un cours que le Rav a été pendant un mois, et il était malheureux comme les pierres, et il a finalement décidé de boycotter le cours. Quand il n'est pas venu une fois, on s'est dit, bon, il est peut-être malade. Deux fois, trois fois, le Rav a compris, le Rav Kouk a dit que c'était Chazaka, il a demandé aux autres élèves, est-ce que quelqu'un sait pourquoi le Rav Nazir ne vient plus au cours? Et il y a un élève qui dit, oui, il m'avait dit que ça le dérangeait beaucoup que le cours soit en yiddish. C'était un cours de Gemara et le cours était en yiddish. Le Rav Nazir, il comprenait parfaitement l'yiddish, aucun problème. C'était sa langue maternelle, a priori. Donc, il n'y avait aucun problème de comprendre le yiddish. C'est pas du tout ça le problème. Mais le Rav, il a dit, mais Be'eretz Israël, ça va être d'aber be'ivrit. On ne peut pas étudier la Torah en yiddish. Et le Rav Kouk a dit, Utsodek. Mais Arshav, Ashiur be'ivrit. Alors, faut vous imaginer que les gens qui étaient dans le cours, eux, ils avaient un problème avec l'hébreu. Ils ne comprenaient pas très bien l'hébreu. Mais il a dit, Utsodek. Mais Arshav, be'ivrit. Le Rav David HaKohen Rabotai, Arav HaNazir, comment vous dire? Kol HaNevoa, c'est sa recherche permanente d'Akadosh Baruch. Très souvent, il allait Bevadikelt pour les Chapes Sham Nevoa. Il a voulu mettre en place un Bet HaSefer la Nevi'im. Mamash! Arav HaNazir, Arav David HaKohen, quoi vous dire, quoi vous dire, quoi vous dire, à part une chose. On a dit que sa pensée, sa Torah, était une Torah qui était basée sur Emet et une Torah qui était basée sur Shmiat Olam. Son Emet, ça a été de venir à Jérusalem, d'être le plus proche possible de la réalité de la Géoula et de transmettre cette volonté de chercher la névoie à ses élèves. La Shmia du Rav HaNazir, c'était une Shmia qui a été mélouvée Beshtika. Il ne parlait pratiquement jamais. Il était dans l'écoute permanente. C'est ce qui lui a permis de mettre en place Orot HaKodesh. Orot HaKodesh, ce sont les écrits du Rav Kouk. Mais lorsque le Rav HaNazir a mis en forme Orot HaKodesh, le Rav Kouk lui a dit « Arshav ! Arshav ! Je comprends ce que j'ai voulu dire. Ce n'est que maintenant que je comprends ce que moi-même j'ai voulu dire. Avant, ce n'était pas très clair, mais la façon dont toi, tu as su entendre mes paroles pour les mettre en place comme ça, maintenant, je comprends ce que j'ai voulu dire. » Le Rav HaNazir, c'était cette dimension de savoir entendre. Mais pas seulement au sein du peuple juif. Entendre également ce qui se passe dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle, dans son commentaire de la Tfila, par exemple, eh bien, il porte un regard très très important sur ce qui se passe dans le monde. Dans son Marzor de Rosh Hashanah, quand on dit Veyasu kulam aguda echad la'asot retzon echa belevav shalem, la tfila qu'on dit à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rav HaNazir vient et dit Aval yesh, yesh aguda achat, ça y est, ça s'appelle l'ONU, l'ONU c'est aguda achat. Vébémet, pourquoi est-ce que l'ONU s'est mis en place? La sot retzoncha. Retzoncha, sheye shalom baolam. Tous ces pays, ils veulent faire ta volonté c'est qu'il y ait la paix. Elle nous dit le problème, c'est que zelo belevav shalem. Lama zelo belevav shalem, c'est pas avec un cœur plein et entier. Parce que la suite de la tfila, zevetim loch ata be'ar tzion, berushalayim ircha. Il dit le grand problème de l'ONU, c'est qu'elle est basée à New York et qu'elle devrait être basée à Jérusalem. Rav HaNazir, Rav Anazir, et je terminerai par cela, Rav Anazir dit la chose suivante, et je me permets de vous citer une partie de son Kol HaNevoa. Je prends, voilà. Je me permets de vous citer une partie de son Kol HaNevoa, hein, parce que le Rav Anazir va parler de la dimension de Chérout. Au Chélek Gimel, dit le Rav, Mazé Acherout. Acherout, la liberté, c'est d'avoir la capacité et la liberté d'entendre. D'entendre et d'écouter. D'entendre tous les éléments du monde qui nous parlent pour savoir écouter lequel nous parle. Rav Anazir avait comme enseignement fondamental de dire que chacun d'entre nous a une façon qui est la sienne d'entendre le kol sheba devarim. Ainsi, il y a une rencontre incroyable qui va y avoir entre le Rav Shari Yashuv HaKohen, son fils, et le Rabbi de Lubavitch. Le Rav Shari Yashuv a été envoyé en tant qu'émissaire du grand rabbinat d'Israël à New York pour quelques affaires, et donc il a été rendre visite au Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch connaissait très bien le Nazir, ils avaient échangé beaucoup de lettres. Et à ce moment-là, le Rabbi demande au Rav Shari Yashuv, il lui dit, j'ai entendu dire que ton père, bon, j'ai entendu dire, je le savais très bien, que ton père était végétarien. Comment est-ce possible? Pourtant, ton père était un grand kabbaliste. Et donc, ne savait-il pas qu'il devait levarer nitzotzot, qu'il devait dévoiler les étincelles de sainteté qu'il y avait dans le steak? Rav Shari Yashuv raconte qu'il a été, pendant quelques secondes, ébranlé. Et il s'est rappelé dans un enseignement de son papa dans le Kol HaNevoa. Il se rappelle de ce que je suis en train d'essayer de vous dire, que son père lui avait dit que c'est la raison pour laquelle le fait que chacun doit entendre sa façon à lui d'entendre Kol Sheba Devarim, que lui, par exemple, eh bien, il ne mangeait pas de viande. Et il explique dans le livre qu'il y a un commentaire du Sdeh Chemed, un des grands Mekoubalim, qui explique que l'un des élèves du Harizal était lui aussi végétarien. Pourquoi? Parce que c'était sa dimension à lui d'entendre les paroles du Hari. Et il dit non seulement « Assur lig orbo », c'est pas bien de le remettre en place, au contraire, pour lui, « Zemidat Rassidut ». Rav Shari Yashuv HaKohen va dire ça au Rabbi de Lubavitch et le Rabbi lui dira « Nitzruni bonoy ». Nitzruni bonoy. Ce qui veut dire Nitzruni banai, Nitzruni banai. T'as gagné. 1-0. Abotai, le Rav Anazir finalement, eh bien, sera resté dans l'histoire d'Israël comme étant l'homme qui aura su écouter. L'homme qui aura su écouter pour que finalement, eh bien, nous soyons capables d'arriver vers ce chemin qui nous ramène à la névoie. Pour le Rav Anazir, la névoie devait passer par un troisième pilier. On a dit Emet, Shmia, et le troisième pilier s'appelait Yerushalayim. Pour le Rav Anazir, la dimension de Jérusalem, la dimension de la névoie, ne pouvait être atteinte que lorsque le peuple d'Israël revenait à Jérusalem. Il a eu la chance d'être le témoin de la guerre des six jours. Il mourra 5 ans plus tard. Et il racontera, et il écrira dans ses fameuses lettres, que ça aura été les 5 années les plus importantes de sa vie. Car toute sa vie d'avant était une vie qu'il a préparée à ces 5 ans-là. Les 5 ans où il a pu être en osmose avec la Géoulat Israël Birushalayim auront été les 5 années les plus importantes de sa vie ça sera les années pendant lesquelles il écrira son livre, ça sera les années pendant lesquelles il transmettra sa Mishnah à ses élèves, au Rav Harlap, qui était plus son chaver que son élève, à son fils. Et c'était à ce moment-là que le Rav Tzvi Yehuda prendra une habitude toute bizarre. Le Rav Tzvi Yehuda et le Rav Nazir sont inséparables, mais ne sont pas vraiment d'accord sur tout. Et ils prennent l'habitude, l'un et l'autre, de passer derrière la fenêtre de la maison de l'autre lorsqu'il fait un shiur. Lorsque le Rav Nazir faisait son shiur une fois par semaine, eh bien, le Rav Tzvi Yehuda, je dis, ils habitaient à une rue d'écart, passait derrière sa fenêtre. Et lorsque le Rav Tzvi Yehuda faisait un shiur à la maison, alors le Rav Nazir peut passer derrière sa fenêtre. Et un jour, le Rav donne son cours et quelqu'un lui pose la question. Quel est votre rapport avec le Rav Tzvi Yehuda? Et le Rav Nazir, il dit, le Rav Tzvi Yehuda, mais c'est mon frère. D'ailleurs, je peux vous dire, même à tel point on est lié, que je sais quand est-ce qu'il passe derrière ma fenêtre. Il passe maintenant. Et c'est le moment où il se retourne et le Rav Tzvi Yehuda passe derrière sa fenêtre. Il dira, le Rav Tzvi Yehuda dira du Rav Nazir, que si lui a été capable de les galotes et de mettre en exergue pour tout le monde les orotes du Rav, de son père, eh bien, sans aucun doute, c'est grâce à l'écoute du Nazir que ces orotes puissent être comprises aujourd'hui. Le Rav Nazir, c'est celui qui aura peut-être le mieux, depuis Moshe Rabbeinu, surréalisé Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et voilà les amis, c'était notre troisième épisode des Gdolé Israël et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, un nouveau personnage. On peut faire, tu sais, comme dans les réseaux sociaux où vous faites des